Dans le club Radio Scoop ce soir, j'accueille un DJ qui fait partie de la famille Radio Scoop. Il s'appelle Victor Nova. Salut Victor Nova.
Salut Adrien, bonsoir à tous.
Bonsoir, merci d'être là dans cet épisode du club Radio Scoop.
Merci
où
de m'accueillir.
On va parler de toi et de ta résidence au Sound Factory.
Ouh là là, les souvenirs.
Ça a démarré en octobre 2008.
Exactement.
Donc on replonge un peu plus de j'allais dire 10 ans, non, c'est 2008, donc ça fait 15 ans en arrière. C'est loin, mais à la fois, il y a plein de souvenirs qu'on avait envie et que j'avais envie de te faire dire, de parler avec toi. Mm-hmm. Ces souvenirs de ce Sound Factory. La boîte de nuit, elle est située à Lyon. T'es résident là-bas à partir de octobre 2008.
Dès la
conception.
Oui, en fait, alors pour être précis, j'étais résident d'un bar que tu as connu qui s'appelait le Yes.
Ok.
Ça c'est le
on
point de départ de tout.
On est à Lyon.
On est à Lyon.
Centre-ville de Lyon.
Voilà.
Un bar qui s'appelle le Yes Hotspot.
Yes Hotspot. Donc à partir ça c'est le point de départ puisque c'était la maison mère.
Ouais.
Donc on cartonne tellement pendant un an que le patron décide d'ouvrir un club un an après. Donc il rachète une ancienne discothèque dans la zone industrielle donc du Bourbonnais à Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.
Ok, donc c'est à l'ouest de Lyon, enfin dans le nord-ouest de Lyon.
Ouais, alors je sais plus si c'est nord-ouest ou bref, ouais, c'est le 9e arrondissement, okay. C'est au bord des Monts d'Or. Hein.
Ok.
Et on décide de faire un club pour les jeunes, mais une discothèque pour les jeunes, mais plutôt axée sur le, on va dire, jeunesse dorée. Électro jeunesse dorée de l'époque.
Donc c'est dans une période où les discothèques
se passe plus rien.
Se passe rien, mais les jeunes ont envie de sortir.
C'est ça.
On est en plein milieu des années 2000. Il y a plein de choses qui se passent.
On est en
rapport avec Radio Scoop. Les direct live le week-end, ça fonctionne super bien.
Mm-hmm.
Et on a cette jeunesse qui veut sortir, qui sort un peu dans les institutions de la région. Je pense au Titan, je pense au César.
Tout à fait.
Il y a cette création là dont tu parlais en 2008 du Sound Factory à Vaise.
Oui. En fait, on s'aperçoit que les gens, quand ils viennent chez nous, font vraiment la fête au Yes, dans ce bar. Et on se dit, tiens, pourquoi on ne reproduirait pas ça en mode boîte de nuit, donc discothèque de l'époque, parce que là, il ne faut pas oublier que c'est un bar festif, donc on est avec les exigences des bars, hein. Fermeture à 4 heures, etc. Donc du coup, alors, une heure au départ, 4 heures après. Et au bout d'un an, on se dit, pourquoi ne pas faire la même fête dans un club dans Lyon qui nous permettrait de, en plus, garder notre clientèle qui viendrait le mercredi, jeudi dans le bar, vendredi aussi, puisqu'on était ouvert au départ que le samedi. On avait décidé d'ouvrir que le samedi.
Ok, d'accord, il y avait cette stratégie.
Ouais. Et on s'est dit, allez, feu, on y va. Donc, on y trouve le local. On me demande à moi, après plusieurs essais de départ non concluant, de m'occuper de la direction artistique et de la résidence. Au début, c'était un peu flou, ils savaient pas trop où ils voulaient mettre les pieds, etc. On était plusieurs DJ. Et du coup, il me dit non, là, ça devient sérieux, donc du coup, tu vas t'occuper et de la régie et de la direction artistique. Donc du coup, je me retrouve avec deux métiers en un, et je suis en plus, moi, obligé de démissionner de mon métier de l'époque. Et à l'époque, j'étais commercial.
D'accord.
C'était commercial et j'étais DJ le week-end.
À 100%.
Et donc, il me demande, en montant le projet très sérieusement, il me dit, on a fait quelques samedis un peu comme ci, comme ça, mais là, on peut pas rester comme ça, il faut vraiment... il faut vraiment sceller le produit à 100%, savoir qu'est-ce qu'on veut et où on va.
Là, comme ça, pour ceux qui nous écoutent, le Sound Factory, à partir d'octobre 2008, va s'enchaîner des mois et plusieurs années avec toi à la tête, avec de nombreux DJ qui sont passés. Je te donne ça un petit peu au hasard. Sébastien Ingrosso qui fait partie de la Swedish House Mafia, Afrojack, je vous dis que les plus connus, bien évidemment. Bob Sinclair, Arnaud Coste, Antoine Clamaran, Avicii va passer au Sound Factory, Benny Benassi, Il y a aussi du Fédé Legrand, il y a aussi Joachim Garraud, il y a Niki Bellucci, il y a Mathieu Boutier, il y a Quentin Mosimane qui y passe. On parle aussi de Leigh Batluc qui performe toujours. Il y a aussi Norman Doré, Sébastien Léger, Steve Angelo. Guetta est pas passé.
Non, on a failli le faire et puis c'est et ça commençait au niveau des prix, ça commençait à être intouchable.
Tous ces noms d'artistes, ok, tu vas nous en parler peut-être pour ceux, ouais, pour certains qui t'ont marqué. Mm-hmm. Mais ça a été une vraie révolution à Lyon, dans la région, d'avoir un club qui enchaîne autant de guests le week-end, c'était vraiment fou. Ça, et le premier guest que vous avez fait marquant au Sound Factory, c'était qui?
Alors, le premier qui était marquant, alors c'est pas si marquant que ça en fait, parce qu'on a été progressivement. En fait, le premier gros boom qu'on a fait avec le Sound Factory était en février, donc octobre-février.
Okay.
C'était donc 4 mois après l'ouverture. On fait un artiste techno que personne connaissait, Popov.
Popov, ok.
On fait Popov. À ce moment-là, la boîte n'est que une salle. Donc, ça a représenté 350 personnes, 400 personnes. Et là, on fait sold out en moins d'un jour. Et c'est devenu un peu la référence. Donc, du coup, moi, j'ai contrebalancé un peu dans ma direction artistique. J'ai contrebalancé entre les artistes techno et les artistes mainstream. Donc, du Steve Angelo ou du Martin Solveig ou du Bob Sinclair, avec de l'artiste techno. Et les artistes techno que j'ai fait à l'époque, c'est des artistes qu'aujourd'hui on retrouve sur les main stage des festivals techno. Je parle d'Oliver Unterman, je parle de Popov, je parle de Dubfire, etc., etc. Donc il y avait vraiment des très très gros artistes qu'on arrivait à avoir en plus à des prix à l'époque, puisque la techno était un peu redescendue en termes de popularité. Mmh. Donc en termes de prix, on arrivait vraiment à booker des gens qui n'étaient pas très chers et qui ramenaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui drainaient beaucoup de monde.
En plus, c'était cette période-là, fin des années 2000, vraiment la montée en puissance des DJ stars. Les DJ commençaient à devenir des vrais rock stars avec... de plus en plus de morceaux à eux joués, que ce soit dans les clubs et à la radio. Donc c'était pile poil le moment où ils allaient commencer à augmenter leur prix, à être de plus en plus demandés. Il y avait moins de festivals aussi.
Alors,
ils avaient besoin de venir dans les clubs.
Le festival, disons qu'il y avait beaucoup, il y avait une émergence d'un nouveau style de musique qui arrivait, c'était la progressive house. Donc tout ce qu'on connaît, hein, de l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est le mouvement Swedish House Mafia, tout ce mouvement qui est devenu après ce qu'on appelle vulgairement l'EDM. Mais l'EDM, on va pas faire un cours de musicologie, mais c'est quelque chose qui englobe beaucoup de styles de musique différents. Mais là, on était sur la promo des artistes comme la Swedish House Mafia, Fédé Legrand, Avicii, Hardwell, tous ces gens-là, même si Hardwell n'est pas venu, mais Hardwell, j'ai failli le faire. D'ailleurs, une petite anecdote à Amsterdam. Mais effectivement, on était sur la promo de ces gens-là qui commençaient à faire la promo des très gros festivals comme le début de Tomorrowland, tous ces trucs-là. Et ils venaient en promo dans les clubs. Et moi, à Lyon, on a fait partie des gens qui ont booké ces gens-là au départ. Donc Steve Angelo, Ingrosso, Axwell, il a failli venir. Le contrat était quasi signé, mais c'était un 1er mai. On a été un peu frileux sur le fait que peut-être un 1er mai, on n'allait pas avoir le monde escompté, etc. Donc, on avait laissé tomber le projet. C'était pas très cher en plus à l'époque, mais on a dit, bon, on va pas prendre de risque sur ce week-end-là. C'était un 1er mai. On a dit, bon, on laisse tomber Axwell. Mais on a failli le faire. C'était quasi signé. On a fait Morio, Solveig, Sinclair, enfin, tout. J'en ai fait 220 en tout.
220 DJ.
Dans ma résidence de 4 ans. J'ai booké 220 DJ.
Et lequel t'as le plus marqué?
Bon, il y a eu chacun avait leur style et toute la mascarade qui tourne autour. Mais j'ai adoré le set de Morio avec la tension que ça a représenté.
Moi, je me souviens de Morio. Moi, quand tu l'as fait au Sound Factory, moi j'étais au Yes et je me souviens que il y a des gars du Sound Factory qui sont venus chercher les caissons.
Je suis venu personnellement. Je suis venu. Je suis venu personnellement chercher les caissons. Je suis monté au Red Room chercher d'autres caissons parce que il était sourd d'une oreille, Eric, et il lui fallait des vibrations dans les jambes. Donc il fallait un maximum de basses. Et j'avais descendu les haut-parleurs, en fait, qui servaient de retour, comme un casque, en fait. J'ai descendu à 80 cm de la tête du DJ pour qu'il ait un maximum de puissance dans les oreilles, plus la vibration dans les jambes. Donc, il y a eu effectivement Eric Morillo. Bon, après, il y a sur la semaine qui a précédé, il y a des anecdotes de fou sur les exigences du catering, etc. C'était incroyable. Ouais, ouais. C'était incroyable. Donc, il y avait toute cette tension qui faisait que il fallait pas louper la date. Tout ce qu'il avait demandé, il fallait pas louper la date. Bon, il y avait des gens de Londres qui étaient venus le voir, etc. Bon, bref.
Parce que vous faisiez aussi des artistes et DJ qui ne se produisaient rarement.
On essayait aussi d'avoir une programmation musicale. Enfin, j'essayais d'avoir une programmation musicale avec l'agence avec qui je bossais, où on était sûr que la semaine d'après, il n'était pas à côté. En fait, quand vous faites à Morillo, vous êtes sûr que le week-end d'après, vous ne le retrouvez pas dans une boîte concurrente, ou etc. Donc, voilà, on essayait d'avoir une programmation musicale en plus un petit peu avant-gardiste, puisque Avicii, moi, quand je l'ai reçu, il n'avait pas 18 ans. Il avait 17 ans et quelques mois. Oui, j'ai été... Alors, la première date en France, elle a été faite à l'Opium à Toulouse, à l'époque. Et puis, nous, on avait fait la quatrième date internationale de Avicii, donc de Tim, qui était venu, effectivement, le jour où il avait neigé à Lyon. Il y avait eu un mètre de neige, tout s'était arrêté. Et les clients, les clubbeurs et des clients étaient venus, avaient bravé les interdits de la neige et tout. Ils venaient à pied. Il y en a même un qui était venu en raquette. On avait mis les raquettes de montagne dans le vestiaire. Il y en avait un même qui est venu en ski de fond. On avait mis les skis de fond dans le vestiaire. Donc, il y a des gens qui venaient en ski de fond pour voir Avicii. C'était sa quatrième date internationale.
Du coup, il y avait du monde sur cette date-là?
On n'avait pas fait le plein, mais il y avait eu du monde. Le club était à trois quarts rempli. Ouais. Bon, à cause de la neige, on n'avait pas pu faire le plein parce que à l'époque, nous, on avait une clientèle quand même qui était relativement jeune et ils venaient beaucoup avec les transports en commun. Donc du coup, les transports en commun étaient bloqués à cause de la neige et donc du coup, on n'avait pas fait le plein à 100%. Mais très belle soirée, très très belle soirée.
T'as d'autres souvenirs de d'autres?
Il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Moi, j'avais adoré, pour revenir à la question de tout à l'heure, j'avais adoré le set de DJ Mehdi qui est plus parmi nous.
Eric Morillo, Avicii, DJ Mehdi, en fait.
Ouais, on avait vraiment des belles. Mark Knight, j'avais adoré le set. Il avait fait un set exceptionnel. Mark Knight, le patron du label Tool Room, pour les connaisseurs. J'avais adoré le set de Dubfire, mais que c'était très dark. En termes de techno, mais c'était super bien. Puis d'autres que je n'ai pas cités, parce que sur 200, évidemment, il y en a eu des très 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 bons. Et c'était top. Belle aventure.
Le Sound Factory a fait des guests pendant... on a fait plus de 200 quand tu étais résident.
Moi, j'en ai fait plus de 200. Après, il y en a eu encore après.
Bien sûr, mais... Pendant cette période de 4 ans de résidence, est-ce qu'il y a des exigences d'artistes, de DJ qui t'ont marqué? Tu disais Morillo la semaine avant, c'est complètement dingue ce qu'il a demandé.
Ouais, le pire c'était Morillo. Et je me souviens que la semaine d'avant, j'avais fait la soirée Ministry of Sound, la tournée Ministry of Sound, et le directeur artistique de la tournée, le directeur de la tournée, était venu lui-même avec son DJ, avec Shane Kewe, qui était le DJ résident de la tournée Ministry of Sound Monde. Mmh. Donc ils étaient venus, puisqu'on avait fait la soirée au Sound Factory. Et il est l'oncle du petit de Morillo. Et il m'avait dit, si tu fais Eric, tu peux faire tous les DJ du monde. Donc j'ai dit, oh, bon, ouais, bon, mais j'ai compris. La semaine qui a suivi ce qu'il m'a dit, j'ai compris. C'est-à-dire, dès la descente de l'avion, il demandait deux véhicules, un pour lui, un pour son agent. Il y a un truc comme ça. Il m'avait demandé du cranberry blanc. Cranberry blanc, je sais que la veille au Queen, il avait demandé... non, le lendemain, pardon, il avait demandé des M&M's, mais que d'une couleur.
Ah bon?
Ouais. En plus, il avait demandé à ce qu'on les mette dans une coupole où normalement ce sont les danseuses. La danseuse remplit la coupole d'eau et puis elle danse dedans. Lui, il a dit non, je veux pas de danseuse, je veux pas d'eau dans la coupole, je veux que des M&M's rouges, bleus, je sais plus. Voilà. Donc ça, c'est parti des exigences un peu bizarres, un peu bizarres, mais on s'est bien marré. Ouais. On s'est bien marré.
Il y a eu aussi des soirées. Il n'y a pas eu que des DJ, il y a eu des soirées à thème.
Ouais, j'ai commencé d'ailleurs.
Au Sound Factory.
Non, j'avais essayé de développer à l'époque aussi les discos au Sound Factory. On m'avait déjà traité de fou à l'époque. Mais on avait fait trois, quatre belles soirées disco. Et puis on laissait quand même la place un petit peu aux étudiants de temps en temps le jeudi. Donc, on était dans la normalité du clubbing à Lyon.
Qu'est-ce qui faisait la différence entre les clubs, entre les clubs concurrents et le Sound Factory à cette époque-là ?
L'âme.
Il y avait une âme.
Ouais. Quand vous rentriez au Sound Factory à l'époque, ça puait la fête. En fait, ça puait la fête. À chaque fois, on n'était pas obligé de faire un guest pour qu'il y ait du monde et surtout du festif. Donc, à chaque fois qu'on rentrait là-dedans, alors au-delà des odeurs d'alcool et etc. qu'on peut avoir dans tous les clubs. Là, ça sentait vraiment ça sentait la fête. Il y avait une vraie âme, en fait. C'était pas parce qu'on faisait pas de guest qu'il y avait pas de monde. Parce que j'ai entendu dire souvent, ouais, mais si vous faites pas de guest, quand vous allez arrêter les guests, vous aurez pas de monde. J'ai dit, écoute, on verra, on va faire une soirée disco, on va voir ce que ça va donner. Le guest, c'était moi. Et puis, on a fait le plein. Il y avait pas de souci.
Il y a eu. Est-ce que pour toi, pour toi en tant que Victor Nova, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Parce que ça a été un tremplin pour toi, le Sound Factory, faire autant de guests mixés avant et après autant de DJ connus. Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou au contraire ça t'en a fermé?
Non, parce que vous prenez toujours de l'expérience dans ce genre de structure. Alors,
je connais un petit peu la réponse.
Ouais, mais ça a été bizarre.
Il y a plein de choses qui se sont enchaînées.
Bien sûr, mais ça a été bizarre en fait, parce que en fait, j'ai été choisi comme DJ résident et conseiller artistique, etc. Bon, on s'en fout des dénominations, mais parce que j'avais de l'expérience, du savoir-faire, j'ai fait ça, qui était un petit peu pour moi un nouveau métier aussi en tant que DJ résident et responsable artistique.
Mais avant le Sound Factory, t'as jamais fait autant de guests?
Non, j'en avais pas fait plus que ça. Okay. J'en ai fait un ou deux parce que j'avais été résident au Moulin Rouge à l'époque où il y avait du guest, mais c'était deux par an. Voilà. C'était pour les anniversaires ou les trucs comme ça. Là, c'était tous les week-ends. Okay. Et des fois, deux par week-end.
Okay.
Donc du coup, Bon, après, effectivement, ça m'a permis... Ça m'a ouvert des portes, évidemment, parce que le fait de travailler tous les week-ends avec des guests et d'être en haut de l'affiche à chaque fois, on parle de vous, c'est normal. Donc du coup, les gars qui veulent faire des soirées, ils veulent le résident du club à la mode, forcément. Puis vous, ça vous permet techniquement de vous améliorer, de voir de nouvelles choses. En plus, on était tout au début de... Moi, on a été le premier club à Lyon à avoir les CDJ 2000. Pionnière. On a été le premier club à recevoir.
À la mode. C'était le club à la mode et à la pointe.
Le livreur, je me souviens, le livreur, il nous avait livré le carton. Donc, il n'avait pas descendu la palette. Enfin, il avait descendu la palette, il avait défilmé. Il nous avait donné 4 platines. Il a dit, c'est tout ce que j'ai. De toute façon, à Lyon, il n'y a personne qui en a. C'est la première livraison qu'on fait. C'est vous qui les avez. Donc, on avait eu les 4 premières CDJ 2000 à Lyon. Donc, c'était magnifique. Oh.
Pour ceux qui ne savent pas, des CDJ 2000, c'est de la marque Pionnier. Et voilà. Ce sont les platines DJ que vous pouvez voir, que ce soit à la télé ou sur les festivals, ou sur les photos de DJ. C'est des platines où on insère aujourd'hui plus de la carte, de la clé USB. Les DJ peuvent aller chercher la musique directement.
Voilà.
Et vous étiez les premiers.
Les premiers à avoir la CDJ 2000, ouais. À l'époque. Bon, c'était la référence des clubs. Donc ça, c'était demandé de toute façon obligatoirement par les guests qu'on faisait. Donc du coup, on était obligé de se mettre à la norme. Et donc, on avait la nouvelle régie Pionnier, magnifique, avec les nouvelles tables et tout. Et puis donc voilà. Donc après, effectivement, dans le cheminement de tout ça, évidemment que ça m'a ouvert des portes, puisque après, moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir mixer au Pacha, à la Pineda, donc à Salou. Alors souvent, il y en a qui disent « Ah, t'étais au Pacha à Ibiza ». Non, Ibiza, c'est autre chose. Enfin, c'est la maison mère, c'est la franchise part de là-bas. Mais le Pacha, la Pineda, c'était le plus gros Pacha du monde. Donc avec une capacité de 7000 places. Et donc la salle faisait 4005. Et puis après, bon, il y a les jardins extérieurs, etc. Et ça m'a ouvert effectivement les portes pour pouvoir mixer aussi avec des guests, puisque eux faisaient du guest. Donc j'ai re-retrouvé là-bas l'été, parce que j'étais en résidence estivale là-bas. Donc j'ai pu retrouver après tous les gars que j'avais bookés au Sound Factory. Donc les Bob Sinclair, les Joachim Garraud, les Avicii, les Axwell, etc., etc. Donc je les ai retrouvés au Pacha. Donc du coup, ça avait favorisé le contact. Et puis... Et puis on se reconnaissait sur les dates, et puis voilà. Donc c'était vraiment cool à l'époque. Donc oui, ça m'a ouvert forcément. Enfin, ça m'a facilité l'ouverture de certaines portes, ouais, effectivement.
Le Sound Factory, c'est le club de référence fin des années 2000, début des années 2010, avec ses nombreux guests et son emblématique DJ résident. Victor Nova.
C'est gentil ça.
Bah oui, bah forcément. Non mais c'est vrai ou pas? Bien sûr que
ouais,
c'est vrai. Sinon,
je sais pas si
invité.
C'est vrai, oui.
Je sais pas si.
Après, il y a beaucoup de. Non, mais il y a beaucoup de DJ qui ont fait.
Non, mais le titre.
En fait,
le titre.
Ouais,
du podcast qu'on retrouve sur radioscoop.com, ça va être Victor
oui.
Nova.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a pas de souci.
Victor Nova du
Sound
Factory.
C'est toi. Sans les moyens mis par la direction à l'époque, Victor Nova, il aurait pas été meilleur que je sais pas quel DJ. Enfin, plus connu, pas meilleur, mais plus connu que n'importe qui.
Et c'est toi qu'ils ont choisi.
Oui, mais bon, j'ai eu la chance d'être choisi.
Oui, t'as eu la chance. Bon, peut-être qu'il y en a qui
auraient moins de chance.
Il y en a qui ont moins de chance et il y en a qui auraient aimé.
Oui, mais après, c'est du travail.
Il y en a qui auraient aimé être choisi à ta place, mais aujourd'hui, ça, c'est le destin, c'est comme ça.
C'est ça. J'ai été l'élu.
T'as été l'élu, c'est pour ça que je voulais que tu viennes en parler de cette période-là, parce que ça parle à certains et à certaines d'entre vous. C'est là-bas que t'as rencontré aussi ta femme, tout simplement.
Ouais, j'ai rencontré l'amour là-bas.
Là, exactement, donc c'est aussi là-bas que peut-être que...
C'était au Yes, mais ça s'est continué au Sound Factory.
C'est des souvenirs comme ça qu'on a envie de faire rejaillir parce qu'il y a des DJ emblématiques. On a reçu, DJ Baptiste, DJ résident du Titan dans les années 2000 jusqu'en 2013, je crois. Allez écouter le podcast, il est toujours disponible. Et toi, l'emblématique DJ résident du Sound Factory, c'est pour vous faire revivre à l'oral et non pas par le son. Pour réécouter les sons du Sound Factory, et vous allez pouvoir utiliser soit écouter Radio Scoop, soit écouter les sons préférés du Sound Factory.
S'il y a des adeptes, j'ai sorti deux podcasts. Ah. Ouais, deux podcasts qui s'appellent Ultimate Collection de Sound Factory, qui sont des mix.
Ils
sont disponibles sur le Mixcloud.
Ok.
Et sur SoundCloud.
Est-ce que c'est disponible sur ton site internet?
Non, j'ai pas de site internet, moi.
T'as pas de site internet?
Non, j'ai pas de site internet.
T'as plus de site
internet? Je suis que sur les plateformes.
Comment ça, t'as pas de site internet?
Non, j'ai pas de site internet, moi.
T'as pas victornova.fr?
Non, moi, j'ai un.
.com.
J'ai un .com, mais j'ai pas monté de site internet.
D'accord.
Il y a suffisamment à faire avec les plateformes. Mais ceci dit, vous pouvez retrouver
refais ta pub du mix.
Voilà. On va le faire. On mettra les liens avec le podcast. Si t'en penses.
Tu veux qu'on mette des liens dans tous les sens. T'as pas de victornova.com.
Si, j'ai un victornova.com, mais j'ai pas créé de site internet.
Ah mais ça amène sur quoi alors? Ah, ça amène sur ton MySpace, je suis en train de le faire en même temps.
Ouais, c'est top.
MySpace, t'imagines? Ça existe encore.
Ouais.
C'est incroyable.
Mais ouais, mais moi je suis un peu vintage.
Non, mais c'est fou.
L'autre fois, j'ai regardé que MySpace existait encore, donc du coup j'ai laissé le truc.
C'est complètement fou. Bon, en tout cas, si vous avez envie de réécouter les sons de Victor Nova à l'ancienne, dans les fins d'année 2000, à début d'année 2010, le son du Sound Factory dont il avait le secret, on s'est tous inspirés, tous les DJ résidents de cette époque-là se sont inspirés de lui. Il y a des influences Victor Nova, et allez lui demander directement sur Instagram ou sa page Facebook.
Ah oui.
ou sinon au 06 09. Non, je plaisante.
Non.
Allez demander directement à Victor Nova sur les réseaux sociaux. Balance-moi ton mix spécial Sound Factory. Il vous enverra tous les petits liens. Le Sound Factory, le club de référence à cette époque-là avec Victor Nova. Merci d'être passé.
Mais merci à toi pour l'invitation.
Et dans le club, on retrouve Victor Nova tous les dimanches soirs de 22h à minuit sur Radio Scoop. Et de temps en temps, il passe une tête dans le club Radio Scoop. On retrouve aussi sur sa soirée mythique du côté du petit salon, la This is Disco, et un petit peu partout dans la région, en soirée, dans les bars, les restos festifs, dans toute la région, et même vos clubs préférés. Et ben, n'hésitez pas à aller le voir, toute l'actualité. Elle n'est pas sur victornova.com, mais elle est plutôt sur ses réseaux sociaux. Il est très actif en ce moment sur les réseaux sociaux, Victor Nova.
On se met à la page.
On se met à la page. Merci beaucoup d'être
passé. Merci à toi, Adrien.